dans quelques instants, le journal.
Vous avez choisi la fréquence de la radio Moto, vous avez raison.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, restez toujours informés de ce qui se passe autour de vous en écoutant régulièrement cette chaîne. C'est la
Vous écoutez Radio Moto Oicha, il est 11h30 à ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. C'est votre journal de la mi-journée, une édition consacrée principalement sur la situation actuelle de la ville de Goma. Jean-Claude Bafoumoja, je suis à sa présentation. Je vais dans ce studio recevoir Nkanka Victor et Samikita Kivo nous retracer exactement ce qui se passe au chef-lieu de la province. Que dit le gouvernement sur le plan diplomatique? Où en sommes-nous? Augustin Kayenka est à la partie technique, restez à l'écoute.
Le Congo nous appartient. Personne ne peut, par n'importe quel moyen, chercher à nous le ravir. C'est à nous, les Congolais, d'être les premiers à résister pour notre Congo.
Très beau jour. Que se passe-t-il exactement à ville de Goma depuis la nuit du dimanche? À ces lundis 27 janvier 2025, les donations à l'armée lourde et légère se faisaient attendre dans la capitale de la province du Nord Kivu. Nkanka Victor, bonjour.
Bonjour Jean-Claude, bonjour à tous les auditeurs de la radio Moto Oicha.
Quelle est la situation de Goma depuis hier?
Alors la situation au chef-lieu de la province du Nord Kivu est confuse. Elle reste vraiment confuse depuis hier dimanche 26 janvier 2025. Des armes lourdes et légères se sont fait attendre toute la nuit. Et venant presque de tout le coin de la ville de Goma, les habitants sont restés donc enfermés dans leur maison jusqu'à ce lundi 27 janvier 2025 au matin. Sans savoir de quoi il s'agissait exactement. Et ce lundi matin, même le coup de balle n'a pas permis aux habitants de sortir de leur maison jusqu'autour de 8 heures. Peu avant cette situation, le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romuald Koukalipo, venait de relayer l'instruction du président de la République, demandant à tous les volontaires, policiers et militaires de s'armer pour défendre la ville.
Sur instruction du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, tous les militaires, policiers, volontaires pour la défense de la patrie et autres agents des services de l'ordre et de sécurité de la garnison de Goma sont consignés et engagé armes à la main dans le combat pour la défense de la ville et donc du pays en entier. Et cela, chacun sous le commandement de sa hiérarchie. Il y va de l'honneur et de la souveraineté de notre pays. C'est pour cela que j'appelle donc tous les concernés à demeurer vigilants, combatifs, et déterminé à défendre la patrie en général et la ville de Goma en particulier, afin de repousser avec énergie l'agresseur rwandais jusqu'au sacrifice suprême. La patrie ou la mort.
Et donc c'était le commissaire divisionnaire Romuald Koukalipo, il est le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu qui appela à la défense de la ville de Goma.
Il appela à la défense de la ville de Goma. Et cette journée, qu'est-ce qu'il faut dire?
Alors cette journée, pour l'instant, et d'ailleurs c'est depuis hier, toutes les activités ont été suspendues sur l'aéroport de Goma, selon la MONUSCO. Aujourd'hui, lundi, entre 7 et 8 heures, des civils étaient visibles en train d'emporter des biens, on dirait des pillages, des biens, donc des biens notamment des vivres étaient en train d'être transportés par des courageux même sous le crépitement et c'était à l'absence des agents de l'ordre ou alors des services de sécurité. Nos sources parlent exactement des habitants qui ont profité de l'absence des forces de l'ordre pour se procurer, surtout à vivre, de vivre de cette manière à l'aéroport. À prison centrale de Goma Mounzenze, des prisonniers ont également profité de l'absence des dispositifs sécuritaires pour sortir de la prison et s'évader en masse. Nombreux prisonniers sont aussi visibles sur les réseaux sociaux et ils sont sortis donc déjà de la prison. Pas seulement à l'aéroport, comme je parlais de pillage. Des pillages sont aussi signalés dans des maisons de particuliers, des maisons de commerce. D'autre part, des pillages par des hommes armés. et c'est dans divers quartiers, notamment à Birere, sur l'axe Sake-Goma, à Majengo et dans les quartiers office où les pillages sont signalés. Pour l'heure et surtout officiellement, on n'a pas de mots pour dire exactement qui contrôle Goma. D'une part, les FARDC et les Wazalendo sont visibles. De l'autre, ce sont les rebelles. Donc là, c'est sur le vidéo ou sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on est en train de voir. Mais les habitants de Goma, certains encore sous cachette ou dans leur maison, ne savent pas dire exactement aussi qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a encore des coups de balle qui se font attendre des côtés. Mais selon les sources citées par Actualité.cd, les tirs auraient même atteint le territoire rwandais, donc du côté de Rwanda, alimentant des inquiétudes de paix régionale. Et pendant ce temps, la petite barrière entre le Rwanda et la RDC est fermée. Et la grande barrière est en tout cas désertée côté congolais.
Situation très confuse à Goma. Les autorités provinciales, nationales, ont-elles dit quelque chose?
Bon, c'est non. Elles n'ont rien dit depuis ce lundi matin. Nous apprenons d'ailleurs que le vice-gouverneur et plusieurs officiers militaires ou policiers ont évacué. Toutefois, le maire policier de Goma demeure encore en ville, selon des sources locales, contrairement au gouverneur policier du Nord Kivu, dont le départ vers Bukavu a été confirmé par plusieurs témoins cités par Actualité.cd. Là où c'est peu calme, des habitants sortent de leur maison, mais pas pour le mouvement en ville, parce que tout est paralysé, en tout cas paralysé à Goma depuis hier. Cette situation arrive ainsi, il faut le dire, alors que la nuit du dimanche à ce lundi, une nouvelle réunion d'urgence du Conseil de sécurité de la défense venait d'être présidée à Kinshasa par le président de la République, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et à l'issue de cette réunion d'urgence, les porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya-Katembwe, a annoncé des mesures pour voir comment préserver la vie des civils. On va l'écouter.
Les forces armées de la République démocratique du Congo est encore en ce moment précis en train de travailler cette réunion. C'était pratiquement la dernière d'une très longue journée parce qu'il y avait à la fois le besoin de suivre de près la situation sécuritaire à Goma. Vous savez que ce matin, des camps des déplacés ont notamment été touchés par des bombes. Il était question d'étudier tous les mécanismes, notamment avec les responsables tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'armée, pour voir comment on assure la protection et la sécurité des populations. Parallèlement à cela, vous avez suivi qu'il y avait aujourd'hui la demande de la République démocratique du Congo, une réunion publique du Conseil de sécurité qui s'est tenue spécialement ce dimanche, où la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a eu l'occasion de présenter la situation global et c'est que la République démocratique du Congo souhaite. Et dans ces mêmes esprits, le président de la République a eu plusieurs contacts avec contacts diplomatiques pour évidemment étudier tous les tours de la question. Et donc à ces propos, le président de la République a tenu d'abord à exprimer toute la solidarité du gouvernement et de lui-même envers nos populations qui sont affectées et qu'à ce niveau, toutes les dispositions sont prises pour nous garantir la sécurité et la protection des compatriotes, parce que nous savons qu'il y avait justement, par exemple, ces bombes qui sont tombées sur les camps des déplacés. Il faut s'assurer que les vies humaines sont préservées. Voilà, en synthèse, les tours des questions qui ont été abordées ce soir autour du président de la République. Nous sommes dans une situation de guerre où l'actualité évolue, elle peut évoluer à tout moment. L'idée ici, c'était de regarder qu'est-ce que nous devons faire pour assurer que nous avons protégé nos populations. On ne va pas aller dans un débat spéculatif parce que nous sommes le gouvernement autour du président de la République et comme nous le faisons habituellement, nous aurons l'occasion de revenir au regard de l'évolution de la situation pour vous faire le point. Mais pour ce soir, la priorité était de regarder, notamment avec les responsables militaires, comment on préserve les vies humaines. Vous savez qui avait la détermination des autres. Vous savez aussi que nos forces sont très déterminées. Et donc, au milieu de cela, il y a une population. Je pense que cette population, le devoir du président de la République et du gouvernement, c'est de s'assurer de leur protection. Et c'est cela qui a fait l'objet aussi des contacts diplomatiques du président, pour lequel nous aurons l'occasion de revenir en détail dès qu'il y aura des éléments à partager.
Et donc, Jean-Claude, c'était là les porte-parole du gouvernement congolais, ministre des médias et de la communication, Patrick Muyaya. Donc, pour le moment, je l'ai bien dit, on sait dire. Et surtout que ce n'est pas dit encore officiellement, ou ça ne se dit pas d'une manière épée officielle, qui contrôle Goma. Mais les habitants, il faut dire que la situation est encore confuse.
Merci à vous, Nganga Victor, pour toutes ces précisions. La veille, soit hier dimanche, c'est l'OGN Afrique, en cas de déplacé, a été bombardé par les M23 dans les territoires de Nyiragongo. Jeune Afrique précise que 10 personnes sont mortes aux côtés d'une vingtaine de blessés, un bilan encore provisoire. Sur le plan diplomatique, où sommes-nous? Sami Kita, bonjour.
Bonjour Jacques-Claude et bonjour à tous les auditeurs de la radio Moto Oïdia.
Alors que les affrontements se poursuivent à l'est, à Kinshasa, les réunions se multiplient.
Exactement, Jacques-Claude, une session d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU s'est tenue le dimanche 26 janvier 2025 à New York. Là, nous sommes aux États-Unis d'Amérique. C'était à la demande de la République démocratique du Congo. Cette réunion a porté principalement sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, marquée par les avancées du M23 et de ses alliés, notamment l'armée rwandaise. Lors de son intervention, la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner, a plaidé pour des sanctions ciblées contre les responsables de l'agression dont la RDC est victime. Elle a souligné que depuis le début du conflit il y a 3 ans, le Conseil de sécurité de l'ONU est resté passif. La ministre a exhorté cet organe à prendre des mesures concrètes, notamment en exigeant la cessation des hostilités par les Rwandais et le retrait de ses troupes du sol congolais. Par ailleurs, la RDC réclame l'imposition d'un embargo sur les minerais, en particulier les coltans exploités par les Rwandais, ainsi que la révocation du statut du Rwanda, attaqué pays contributeur des troupes pour les missions de l'ONU. Le gouvernement congolais demande également l'instauration des systèmes de notification pour toute vente d'armes à destination du Rwanda. Écoutons la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, dans ses propos.
Ce que traverse la République démocratique du Congo n'est pas un conflit parmi d'autres, mais une agression délibérée et méthodique contre un État souverain. Une violation flagrante des principes fondateurs de cette organisation et une atteinte intolérable à la paix et à la sécurité internationale. La République démocratique du Congo attend légitimement de ce Conseil qu'il agisse avec fermeté et diligence pour protéger la paix et la sécurité internationale et imposer le droit international, un pouvoir qui lui est exclusivement conféré par la Charte des Nations Unies.
Le Conseil de sécurité doit ordonner immédiatement la fin des hostilités par le Rwanda et exiger le retrait immédiat des troupes rwandaises présentes sur le territoire congolais. Le Conseil de sécurité doit imposer des sanctions ciblées, incluant le gel des avoirs et l'interdiction de voyager, non seulement contre les membres identifiés de la chaîne de commandement des forces armées rwandaises, mais aussi contre les décideurs politiques responsables de cette agression.
C'était là la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, à l'ONU.
Monsieur Sami Kita, l'armée avait il y a quelques jours annoncé des pertes énormes, surtout dans les raids du M23 lors des combats. Les rebelles ou le M23 seraient en train de se renforcer?
Jacques-Claude, il faut retenir que la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, lors de son intervention dans la session de l'ONU d'urgence sur la RDC, a également confirmé l'entrée des nouvelles troupes rwandaises sur les territoires congolais. C'était le dimanche 26 janvier 2024 via les bornes 12 et 13 à Gisenyi. Elle a qualifié cet acte d'agression frontale, estimant que cette attaque directe du Rwanda constitue une véritable déclaration de guerre. On l'écoute.
De nouvelles troupes rwandaises ont franchi les bornes 12 et 13 du poste frontalier séparant Goma de Gisenyi, pénétrant sur notre territoire en plein jour dans une violation ouverte et délibérée de notre souveraineté nationale. C'est une agression frontale, une déclaration de guerre qui ne se cache plus derrière des artifices diplomatiques.
Alors que Kinshasa confirme les renforcements, bien sûr, des M23, surtout l'armée rwandaise qui est en train de renforcer les M23, les condamnations proviennent de partout, Sami Kita.
Jacques-Claude, il faut dire que les représentants de plusieurs pays ont pris la parole au cours de cette réunion d'urgence consacrée à la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Tous ont appelé le Conseil de sécurité à agir de toute urgence pour stopper l'escalade du conflit et protéger les vies humaines. Dans sa déclaration liminaire, Jean-Pierre Lacroix, alors secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé des opérations des maintiens de la paix, a déploré l'offensive menée par la rébellion du M23 avec le soutien du Rwanda, bien sûr. Depuis le début de l'année, il est encore possible d'éviter les pires, à condition que ces conseils agissent sans délai, a-t-il déclaré. Dans le même esprit, Didier, la chef de la MONUSCO Bindou Keïta, a exhorté le conseil de sécurité de l'ONU à intervenir immédiatement pour sécuriser la population civile, les aides humanitaires, les travailleurs humanitaires et les personnels des Nations Unies. Elle a également invité toutes les parties impliquées dans les conflits, notamment la RDC et le Rwanda, à trouver une solution politique en reprenant le processus de Luanda. Écoutons Bindou Keïta, chef de la MONUSCO, dans ses propos.
Nous devons trouver une solution politique. J'appelle donc la RDC et le Rwanda à poursuivre les négociations politiques dans le cadre du processus de Luanda. À ce titre, la rhétorique hostile et les accusations mutuelles doivent cesser pour laisser place à des échanges et des actions constructives.
Il faut dire, selon la DW, certains engins de l'ONU sont évacués via les Rwandais, réseau de l'incertitude sécuritaire qui règne actuellement à Goma, à en croire ces médias allemands. Des bus ont été organisés ce lundi 27 janvier 2025 à la frontière rwandaise avec l'est de la RDC, prêts à évacuer des personnels de l'ONU et leurs familles venant de Goma.
Alors que la situation demeure tendue dans l'est de la RDC, la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, convoque dans les prochaines 48 heures un sommet extraordinaire auquel prendront part les présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi.
Exactement, Claude, ce sommet portera sur la précarité de la situation sécuritaire au Nord Kivu, marquée par l'agression rwandaise. C'est après plusieurs jours de silence que la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, se prononce sur la question de l'Est de la RDC. Elle convoque un sommet extraordinaire qui se tiendra dans les prochaines 48 heures. L'annonce a été faite par le président kenyan alors que la situation reste toujours préoccupante et confuse à Goma et ses environs. Le président kenyan William Ruto a fait cette annonce dans la nuit du dimanche 26 janvier 2025, précise Actu 7.cd, notre source. Selon William Ruto, l'objectif du sommet est de délibérer sur cette crise et tracer la voie à suivre. Il affirme que les présidents congolais Félix Antoine Tshisekedi et rwandais Paul Kagame ont confirmé leur participation à ce sommet. Au lendemain de l'adhésion de la RDC à l'EAC, il faut rappeler, l'organisation est-africaine dirigée par les Kenyans avait déployé une force conjointe dans la province du Nord Kivu pour contenir les attaques des rebelles rwandais du mouvement du 23 mars M23. Incapable d'arrêter les rebelles, cette force avait été récusée par Kinshasa, qui s'est immédiatement tournée vers la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Le Kenya a participé à la recherche de la paix dans l'est de la RDC. Son ancien président Uhuru Kenyatta est le médiateur désigné à parler assez dans la crise entre Kinshasa et les groupes rebelles. Et malheureusement, c'est sur le sol kenyan, précisons-le, que Corneille Nangaa a lancé son alliance Fleuve Congo à FC Jean-Claude Mbafoumoja.
Merci à vous, Sami Kita. Entre-temps, l'ONU relocalise temporairement son personnel de la ville de Goma pour les Rwanda à Prato. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition de la mi-journée, mise en onde par Augustin Kayenga. Un journal spécialement consacré sur la ville de Goma. Et jusqu'à présent, on ne sait exactement qui contrôle la ville de Goma entre FARDC ou M23. On pourra donc y revenir dans notre édition vespérale. Sami Kita, merci à vous de nous avoir donné des précisions. Merci également à vous, Nganga Victor. Jean-Claude Bafoumoja, j'ai été à la présentation. Au revoir, portez-vous bien.
Merci de suivre l'actualité tous les jours sur Radio Moto Oicha. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.radiomotooicha.com.